Résonance, le lundi à 20h sur Radio G, présenté par Marina Dou.
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, un moment rien que pour vous et avec nous. C'est Résonance, l'élégance musicale, l'art du métissage. Les vibrations qui nous touchent, traversent notre chair, notre être, au-delà de nos différences. Alors soyez prêts pour ce voyage, car c'est avec A.U. et Adia que nous partons ce soir. Un groupe atypique, un univers singulier, c'est le groupe A.U. et Adia. Cinq chanteuses réunies autour de chants traditionnels du monde pour nous transmettre cette passion de la voix. L'ouverture du cœur, des rencontres, des partages, des connexions, c'est là toute la richesse de ce quintet vocal. Une expérience sonore qui dépasse les frontières, défie le temps et l'espace, laissant derrière nous l'empreinte de nos désirs. Adia, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Et bienvenue dans Résonance.
Merci.
Ce soir, on est avec vous pour parler musique, mais pas de n'importe laquelle. Une musique des quatre coins du monde, celle des chants traditionnels. Cinq voix féminines réunies pour nous faire voyager dans les profondeurs de nos mémoires, de nos histoires. Avec Elsa Bader, Julie Fandy, Alexandrine Guédron, Leila Armi-Meisterman et Claire Robert. Alors, vous êtes un groupe exclusivement féminin. Quel a été votre engouement pour ce type vocal, ce genre de musique vocale?
Nous avons commencé par nous rejoindre autour de l'improvisation, au tout départ. Et puis, petit à petit, on a été invités dans un festival qui mélangeait ces deux styles, c'est-à-dire à la fois de l'improvisation, mais aussi de la musique traditionnelle. Et l'une d'entre nous était spécialisée plus dans les chants de l'Est. Et on a commencé à apprendre quelques chants traditionnels de plusieurs pays de l'Est et de les mêler à nos improvisations. Et c'est comme ça qu'on a démarré notre groupe. Alors, je tiens juste à préciser quelque chose, c'est que on n'a pas choisi au départ d'avoir un groupe avec cinq femmes. Au départ, on était des hommes, des femmes, et puis petit à petit, on s'est retrouvés, nous cinq, et on s'est dit qu'on était bien ensemble et qu'on avait envie de continuer comme ça, de manière plus fixe. Et voilà comment le groupe a commencé.
Et le nom, alors A.U. et Adia, ça nous interpelle tout de même?
Alors A.U. et Adia, c'est quelque chose qui peut à la fois faire penser à des onomatopées. En tout cas, nous, on l'a entendu comme ça, et c'est en même temps une expression de la langue française qui veut dire aller dans des directions différentes. Et ça nous parlait par le fait que, en improvisant, on prend le temps de se mettre à l'écoute de chacune et donc d'aller dans des directions différentes parce qu'on est différentes. On a cinq personnalités différentes qu'on a décidé d'exprimer toutes, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de leader. On tient à ce que les choses se fassent ensemble. Donc A.U. et Adia, ça parle de ça, aller dans les cinq directions qui sont les directions profondes qui peuvent être impulsées par chacune de nous. Et en même temps, on s'est rendu compte après ça, c'était drôle, que l'acronyme de A.U. et Adia, ça fait « ahead ». Et donc, en allant dans les directions de chacune, ça nous fait aller tout droit et on a trouvé ça très drôle. Et voilà.
Alors, on parle d'improvisation. Est-ce que vous partez sur une base de chant traditionnel et vous improvisez ou c'est complètement libre?
Comme disait Alexandrine, le démarrage du groupe, c'était vraiment l'improvisation. Et c'est dans ce sens-là qu'on a chacune accueilli les autres, et puis il y avait des hommes au départ aussi, pour improviser ensemble. Et donc, c'est par la suite, ça c'est l'historique, quoi. C'est par la suite que les chants traditionnels sont venus beaucoup plus, finalement, composer notre répertoire. Et que maintenant, on est beaucoup plus sur du chant traditionnel avec... dans les chants traditionnels de l'improvisation qui vient à certains moments orner ou orienter une couleur, faire en fait des arrangements qui vont intégrer des improvisations.
D'accord. Alors, vous parliez aussi de rencontres, de partage avec d'autres cultures. Comment ça s'est passé? Voilà, quelle rencontre vous a marqué le plus, peut-être? Quel voyage?
Tout à fait. Alors, la particularité de notre groupe, petit à petit, ça a été de se dire, ah non, je reprends depuis le départ, excusez-moi.
Pas de souci.
Avant de commencer par vraiment la démarche actuelle, on a été d'abord faire une expérience en Serbie, rencontrer une personne incroyable qui s'appelle Svetlana Spajić et qui est une chanteuse serbe qui se définit comme l'une des dernières Mohicans de Serbie. C'est-à-dire qu'elle est très très réputée dans le milieu des chants traditionnels en Serbie et elle va rencontrer les personnes sur place. Elle passe de montagne en montagne, de village en village pour faire du collectage et ensuite chanter avec son groupe ces chants-là. Et nous, on a été la rencontrer et ça a été vraiment très très fort pour notre groupe, pour sa constitution, pour sa technique vocale au départ, et puis pour son identité. Et puis ensuite, on a continué avec d'autres chants, d'autres pays du monde qui sont influencés beaucoup par nos différents parcours. Mais de plus en plus, maintenant, ce qu'on fait quasiment exclusivement, c'est qu'on rencontre des gens qui habitent autour de chez nous et qui viennent de pays différents, qui parlent des langues différentes. Et qui nous les transmettent en Alsace, à Strasbourg, aux alentours. Et ça, c'est vraiment important pour nous, dans le sens où on n'a pas forcément besoin de faire le tour du monde pour aller collecter des chants, parce qu'ils sont là, ils sont juste à côté de chez nous.
Est-ce que vous avez plutôt un parcours classique ou atypique dans l'apprentissage de votre musique, de la musique?
On a des parcours très différents, comme on est cinq, j'en parlais tout à l'heure. Il y a plusieurs d'entre nous qui ont un parcours plutôt classique avec un passage, alors un passage en conservatoire, mais pas forcément en chant. Donc voilà, il y a et puis d'autres qui n'ont pas spécialement pris des cours et qui sont plutôt autodidactes. Certaines qui ont fait des écoles. De chant, mais plutôt de jazz. Enfin, il y a vraiment, on est à cinq dans des trajectoires complètement différentes.
C'est ce qui fait la richesse et la diversité un peu de nos arrangements et de nos attirances suivant les origines des chants aussi et puis les rythmiques, les improvisations.
En tout cas, moi, ce que j'ai envie de préciser, là, tu parlais de Svetlana Spajić, il y a vraiment aussi l'importance de la présence en fait. Elle nous a fait vraiment travailler la présence au son et je pense que c'est quelque chose de très important pour nous et la présence ben les cinq personnes que nous sommes et la façon dont on s'exprime dans la musique c'est un élément important. Du coup, quelle que soit la trajectoire de départ. Ça, c'est un point important qui fait qu'on s'entend sur des différences d'arrangement ou des différences de propositions, mais qui intègre cette partie-là, quoi.
Et c'est quoi cette présence au son, cette relation au son?
Alors, comment décrire ça? Alors, par exemple, moi, je me souviens d'une des choses que cette chanteuse nous a transmise, qui était de se fondre dans le son en ayant conscience que les sons, ils existent. Ils existent, et le fait de le chanter, ça le souligne. On est là dans le son, mais juste comme un résonateur qui l'amplifie. Et le fait de considérer ça. Ça donne une présence au son qui, pour moi, est très différente en se considérant comme ouais une caisse de résonance de quelque chose qui, de toute façon, existe de tout temps, en tout lieu. Et voilà, ce genre ce genre de considération.
Ce que je pourrais ajouter de manière aussi peut-être un peu plus pragmatique, c'est que on n'utilise aucune partition. Tout est à l'oreille, tout est un apprentissage oral. Ce qui fait qu'au niveau de notre écoute, je pense qu'il y a une concentration assez importante et une volonté d'avoir un son d'ensemble qui est comment?
Une présence aux autres en même temps. Ouais.
C'est ça. Et on n'a pas forcément les mêmes timbres de voix. On n'a pas du tout non plus fait ce choix de se dire que l'une ou l'autre devait prendre la partie plus aiguë ou plus grave, soprano, alto, ténor. On considère pas du tout ces choses-là comme ça. On a envie de choisir sa voix. On propose et puis les autres s'y ajoutent et on compose comme ça. Et c'est ce qui fait aussi ce son d'ensemble.
Alors, les chants traditionnels, comme on le sait, ils sont très liés à la vie quotidienne. Quelles sont les thématiques qui vous tiennent à cœur, qui vous surprennent, voilà, qui vous donnent envie, en fait, de communiquer, de transmettre?
On a parlé pas mal de l'album d'avant, donc le spectacle d'avant également, qui s'appelle Transhumance, parlait pas mal de chants liés au quotidien, de chants liés à des situations de ruralité, et puis de transhumance également, façon littérale, avec les déplacements
De mouton.
de troupeaux,
De troupeau.
de chèvres, de moutons, tous ces chants qui aident les personnes qui travaillent durement à se donner du courage, à la fois en extérieur, et puis petit à petit avec l'évolution de la société en intérieur.
Moi, j'ai un petit peu du mal à répondre à cette question. Je pense que toutes les thématiques peuvent être prises avec quelque chose de fort à prendre à partir du moment où on arrive à les vivre comme quelque chose qui nous concerne vraiment. Et en général, bah, les chants traditionnels, ils parlent de thématiques universelles, hein, la plupart du temps. Du coup, je pense qu'à partir du moment où on arrive à le rattacher à notre vie et à l'incarner de manière un peu je sais pas, un peu réaliste par rapport à nos vies, ça me semble avoir un intérêt à interpréter. Et c'est le cas bah, beaucoup beaucoup de chants traditionnels vont parler d'amour, par exemple. Voilà, on va se sentir concerné. Il y a des travaux dans les chants, comme disait Alexandrine, mais il y a beaucoup de thématiques qui sont beaucoup plus encore beaucoup plus universelles.
Après, si on doit continuer dans ce choix du contenu pour notre dernier spectacle, donc qui s'appelle Empreinte, on s'est vraiment attaché encore plus que le précédent au contenu des chants et on a aussi sélectionné des chants en fonction de ça. Et il y a notamment un chant en alsacien, donc on a mis quand même pas mal d'années à se dire que ça serait chouette aussi de pouvoir voilà pas revenir, mais en tout cas pouvoir aussi élargir nos choix musicaux à des chants régionaux qui soient proches de chez nous. Et on a rencontré Bernard Freudenreich, qui est une bibliothèque vivante en Alsace, un homme qui collecte des centaines, voire des milliers de chants alsaciens. Et avec lui, on a choisi un chant qui parle de la thématique de l'avortement. Et c'est un vieux chant, hein, du XVIIe siècle, qui en parlait d'une manière différente pour exprimer toute la dangerosité de ce que peut
De cette
provoquer
pratique à cette époque-là,
un
oui.
avortement, voilà. Et nous, on l'a choisi pour en parler à l'heure actuelle. C'était tellement, ça nous touchait. Et puis finalement, C'est tombé l'année où, voilà, le droit à l'avortement en France a été enregistré dans la Constitution. Donc c'est vraiment des problématiques qui nous touchent. Et puis, pour parler de cette thématique, ce qu'on explique en concert, c'est que voilà, pour nous, on a besoin de parler de ça et de dire que on n'a pas envie de revenir deux ou trois siècles en arrière. Et donc c'est une manière aussi pour nous de nous positionner.
Toujours avec nous et pour vous dans Résonance sur Radio G avec AU et Adia. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre avec tous ces chants, au-delà du sens même en fait du texte?
Alors, je dirais que c'est toute la vie qui s'y concentre. Les chants traditionnels, ils ont été chantés et vibrés par des milliers de corps et c'est tout ce qui est dans un chant qui peut être continué à être mis en valeur et en vie. Voilà, il y a des tonnes de choses à vivre avec ces chants-là. C'est remis dans l'actualité, ce chant traditionnel qui parle de l'avortement. Ça va pas évoquer les mêmes choses à notre époque qu'à cette époque-là, où on en était encore à confondre sorcière et puis sage-femme etc. Donc il y a plein de choses qui se rattachent aux paroles d'un texte qu'on va choisir. Il y a toutes les interprétations qui à travers le temps changent et pour nous voilà, on l'interprète avec notre vision actuelle qui fait qu'on espère bien que oui, être une sorcière, être une sage-femme, être une femme qui perd ou qui souhaite ne pas garder un bébé, c'est des choses bien distinctes et qu'on peut faire la différence à notre époque, ce qui ne l'était pas au moment où ce chant apparemment a été écrit.
Alors vous chantez dans toutes les langues, je suppose. La barrière de la langue, comment elle est perçue par le public en fait, parce que les personnes ne comprennent pas le sens du texte.
Alors je pense qu'elle peut être perçue de différentes manières. Sur le set précédent, Transhumance, on ne parlait pas du tout pendant le spectacle. On était attaché plutôt à une présence corporelle avec pas mal de mouvements, voilà. Et c'était un parti pris. De se dire ben tant pis, les gens ne comprennent pas, mais ils voyagent d'une autre manière, ils voyagent avec des sons différents, avec des rythmiques différentes, des arrangements différents. Pour ce set là on s'est attaché quand même à traduire certains chants ou à recontextualiser nos choix, nos rencontres et notre démarche. Ce qui fait que les gens, enfin les spectateurs en savent un peu plus, mais je pense que de toute façon, voilà, ils voyagent toujours de cette façon également, même s'ils ne connaissent pas le contenu, ils vibrent d'une autre manière avec nous. Et puis, oui.
Donc ouais, les vibrations qui en fait communiquent se transmettent à tout le monde en fait, voilà, sans aucune barrière de frontière ou de quoi que ce soit au final.
Ouais, c'est ça, la musique elle exprime quelque chose et d'ailleurs elle va être perçu de manière différente par chaque personne en fonction de son parcours. Et c'est bien comme ça. Il y aura de toute façon quelque chose qui peut toucher. Et le texte en est un des éléments, mais tellement pas le seul.
Eh bien, on va écouter un extrait du titre Eiza de l'album Transhumance. Alors, de quoi parle cette chanson, Eiza?
Alors, c'est drôle. En fait, c'est une composition et c'est du langage imaginaire. C'est une composition de Leila Army Meisterman. Donc c'est pas du tout un chant traditionnel et c'est un texte dans lequel chacun peut mettre le sens qu'il veut et c'est comme ça qu'elle le présente. Parce que c'est des sons qu'elle a mis les uns à côté des autres pour en faire une langue imaginaire.
Ça permet de parler de ça, effectivement. On n'en avait pas parlé encore depuis le départ. C'est-à-dire qu'on fait à la fois des chants traditionnels, mais aussi certaines compositions qui sont souvent basées sur des improvisations qu'on fixe en langage imaginaire. Et donc, Eiza en fait partie.
Alors, vous avez fait un choix de chanter a cappella avec quelques percussions.
C'est ça.
Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à ne pas prendre d'instrument mélodique?
Ça, c'est l'historique du groupe. Comme on disait au départ, l'objectif qu'on avait ensemble, c'était d'être dans de l'improvisation vocale exclusivement. Et c'est ça qui nous a amené à faire de la musique vocale. Le fait de prendre ensuite des percussions, c'est parce que dans beaucoup de chants traditionnels, c'est très intéressant d'enrichir avec de la percussion. Mais les instruments c'était pas le propos du projet, c'était pas l'envie initiale en tout cas, c'était vraiment la voix.
Et puis on enrichit beaucoup nos voix en polyphonie et donc on n'a pas forcément éprouvé le besoin d'ajouter d'autres instruments mélodiques étant donné que à cinq voix, on peut déjà faire cinq voix différentes. Par contre, le choix qu'on a fait pour le dernier spectacle, c'est d'ajouter encore plus de percussions. Et là, actuellement, on a sur scène trois gros tambours, plusieurs, un bendir, une derbouka, un daf, un kirin, plusieurs accessoires percussifs. Et c'est vrai qu'on, voilà, on prend de plus en plus de place. Et c'était un sacré challenge pour nous d'ajouter toutes ces percussions, mais on est assez satisfaite. Ça nous ajoute aussi pas mal d'ancrage sur nos voix. Et une certaine puissance dont on est satisfaite.
Et pour finir, alors l'émission, comme vous le savez, s'appelle Résonance. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Espace. Je suis dans des images. Pour moi, c'est très concret. Je sais pas si ça vous parle comme réponse. La résonance, ouais, ça m'évoque, bah, comme je disais, on souligne un son et il existe de tout temps dans l'espace infini. La résonance, c'est ça.
Et ça m'évoque. J'ajouterais de la résonance dans le temps, dans le sens où, voilà, nous on est cinq femmes, on vit dans notre société et puis on chante des chants qui existent depuis un siècle ou deux siècles ou trois siècles et qui nous font résonance par rapport à leur thématique, par rapport à leur mélodie. Et cette résonance vibre en nous et permet à d'autres de vibrer avec. Et ça, c'est sacrément fort comme sensation.
Eh bien, merci Julie et Alexandrine pour ce partage. On retrouve AU Adia sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux.
Alors, un concert en novembre.
Le 21 novembre au théâtre de Haute-Pierre avec le festival Musique et Elle, qui est un festival dont l'objectif vise à inviter le plus de femmes musiciennes professionnelles possibles sur scène, en sachant qu'on est un peu moins de 20% à être représentés actuellement en France. Donc on est très contente de pouvoir y jouer. Et puis après, voilà, on a un site, on a une page Facebook, on a plein d'autres possibilités de nous écouter également sur les plateformes.
Eh bien, merci.
Merci à vous.
Merci.
Résonance, c'est pour vous et avec nous. De l'élégance, de l'émotion, des vibrations. On vous dit à bientôt.
Cinq.